Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Le Québec maintenant.
Jeannette Bertrand et ses perles de sagesse.
Bonjour, je suis Jeannette. Jeannette Bertrand. C'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver. J'ai repris mon chapeau d'animatrice pour vous proposer des modèles à suivre.
On la connaît, hein? Elle n'a pas vraiment besoin de présentation. Jeannette Bertrand n'a pas dit son dernier mot. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait d'un balado qu'elle a animé en collaboration avec Ici Première, la chaîne de Radio-Canada. Jeannette et ses perles de sagesse, balado qui a été primé au New York Festival's Radio Awards, un festival de radio. Je suis honoré et très content de recevoir Jeannette Bertrand. Madame Bertrand, bonjour.
Bonjour, Patrick. Bonjour.
Je suis toujours impressionné de votre vitalité.
Oui. Qu'est-ce que tu veux? Je fais de même. J'aime la vie, j'aime le monde. Je trouve que la vie vaut la peine d'être vécue malgré tout ce qui arrive. Puis je suis contente d'être en vie.
Comment vous avez réagi quand vous avez appris que vous avez eu, à 99 ans, un nouveau prix, cette fois-ci aux États-Unis, pour une émission de radio?
Ben oui. Comment j'ai réagi? Je me dis, il trouve que faire parler des vieux, c'est formidable. J'étais contente pour nous, les vieux.
Dites-moi, une grande partie de votre combat dans votre vie, Mme Bertrand, ça a été pour les droits des femmes, et je pense que vous faites encore ce combat-là. Maintenant, c'est beaucoup pour les aînés, pour les personnes âgées. Si je vous demandais de résumer en un mot ou deux la situation des personnes âgées au Québec, qu'est-ce que vous choisiriez?
Bon, en ce moment, je pense qu'on se réveille, les vieux. On dormait. Pendant la pandémie, on dormait. Comment ça se fait qu'on ne s'est pas réveillé, qu'on n'est pas allé voir quelqu'un, je ne sais pas quoi, brasser le gouvernement, dire « faites quelque chose ». Écoute, moi, je suis vieille, là. J'étais chez nous, j'ai dit à mon chum, « si je suis malade, amène-moi pas à l'urgence. Faut laisser la place aux jeunes ». Moi-même, j'étais persuadée que je valais rien. La pandémie nous a donné à nous, les vieux, vous êtes rien, vous comptez pas. On peut bien, il va mourir de toute façon, tout aussi bien qu'il laisse la place aux jeunes. Alors, mais là, les gens se réveillent, les vieux se réveillent. Moi, j'ai lancé il y a 2 ans, maintenant, j'avais déjà lancé quelque chose pendant la pandémie. Là, j'ai lancé, les aînés, on a besoin de modèles. Avec l'Institut de gériatrie de Montréal. Oui. Écoute, ça marche. Les gens comprennent qu'il faut qu'on monte de nouveaux modèles. Pendant 3 ans, on nous a montré des malades. Vieux égale malade. Là, il y a vieux égale moi et bien d'autres comme moi qui sont pas malades, qui ont des bobos, mais qui sont pas malades, vraiment pas malades de leur tête non plus, et qui sont prêts à agir. Mais on dirait qu'on est trop individualistes, les petits vieux. On veut pas brasser les affaires, on a assez donné. Ben moi, je suis là pour brasser les affaires.
Continuez à brasser les affaires. Je veux qu'on parle un peu de droits des femmes. C'est une cause, c'est une lutte à laquelle vous avez été associée.
Ah, mon Dieu, oui.
Je perçois comme un retour d'un antiféminisme, d'une misogynie qui s'exprime de plein de façons. J'imagine que ça vous inquiète.
Ça m'inquiète beaucoup, tu sais, qu'on est les voisins des États-Unis, la droite fait en sorte que les femmes n'ont plus le droit d'avorter. Là, dans quelques années, on va leur dire pour que vous restiez à la maison. On dirait que ceux qui nous dominaient, et on était dominés et contentes de l'être il y a plusieurs années, ben là, ils ont peur. Ils ont peur, puis là, ils baissent. Ils pèsent sur nous pour qu'on reste en dessous. Moi, je pense que c'est le retour du balancier. Tu sais, quand tu as dominé pendant 8000 ans les femmes, Ben, que les femmes se lèvent et disent « Hey, on existe », ben il y a un mouvement là qui fait en sorte que non, restez, vous êtes nos servantes, restez nos servantes.
Est-ce que au Québec, la situation des droits des femmes vous inquiète comme celle des Américaines?
Ben non. Là, aux États-Unis, c'est terrible. Qu'on défende l'avortement, c'est notre liberté, notre seule liberté, c'est notre corps. Qui défendent d'avorter. Moi, ce qui me fait peur, Patrick, c'est quelque chose d'autre. C'est les jeunes, les très jeunes, qui vont sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, il y a une tendance qui est masculiniste. C'est-à-dire, rester à la maison, les femmes, les filles. Ça, c'est dangereux. Ce qui est dangereux pour les jeunes en ce moment, c'est eux qui vont vers les États-Unis. Il n'y a que de bon que les États-Unis. Quand je pense que les jeunes regardent Netflix plutôt que Radio-Canada ou TVA, je trouve ça, c'est dangereux. C'est dangereux. On va-tu devenir américain? On ne peut pas ne pas être influencé par l'Amérique.
Jeannette, on a parlé un peu plus tôt à des humoristes, à une psychiatre qui ont décortiqué là une vidéo qui a beaucoup circulé. Ça a été viral. C'est une vidéo masculiniste québécoise où les gars expliquent, les animateurs expliquent qu'il faut que tu contrôles ta blonde. Je vous en fais jouer un extrait puis on en jase après.
Si une femme se soumet à son plein gré à son homme, c'est elle qui a pris la décision qu'elle veut pas avoir à penser puis elle veut que ça soit l'homme qui pourvoit. Pourquoi est-ce que c'est oppressant?
Quand des opinions correspondent pas à votre façon de voir les choses, là, vous callez au SOS, violence conjugale. Hey, tu veux-tu le laisser vivre un peu? Il y en a des femmes qui font ce choix-là de vivre de façon un petit peu plus traditionnelle puis qui veulent être soumises à leur homme.
Mais c'est vous autres, dans le fond, qui êtes oppressants envers ces femmes qui choisissent d'avoir ce rythme de vie-là.
Jeannette, ces gars-là disaient aussi, tu laisses pas ta blonde sortir dans un bar, aller dans des festivals, etc. Puis la question que j'ai pour vous, c'est comment on répond à ça, s'il faut y répondre?
Ça, je le sais pas. Je n'ai pas la science, la sociologie. Je le sais pas. C'est que pour les femmes, là, tout simplement, les filles, les petites filles, faut être prudente, ne pas se laisser embarquer là-dedans quand on est jeune. Et c'est aux parents à montrer que les femmes valent quelque chose. Là, il faut que les parents se mettent de la partie. Et moi, je crois, Patrick, que les hommes comme toi, là, qui ont des enfants, doivent donner à leurs garçons. C'est eux autres, là, le fils père, qui va leur montrer qu'est-ce que c'est qu'une femme. Par l'exemple, mais aussi par les paroles. Faut s'en occuper, là. Faut s'en occuper. Il y a un mouvement de droite qui balaie le monde entier. Faut s'en occuper, sinon on va se retrouver comme on était il y a 100 ans.
Merci, Jeannette. C'est toujours un plaisir de vous parler.
Merci.
Vraiment, prenez soin de vous, puis je vous dis longue vie.
Ben, à toi aussi. Merci.
Merci beaucoup. C'était la grande Jeannette Bertrand.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé, en accéléré.
Perquisition hier au domicile de Christian Firth. C'est un des deux associés de GC Strategies. Ça vous dit probablement pas grand-chose, sauf que c'est l'entreprise qui était derrière l'application ArriveCan. On le sait, ça devait coûter quelques centaines de milliers de dollars. Ça a fini par coûter à peu près 60 millions de dollars, là, si je me souviens bien. Et ça a créé une sorte de crise politique. Il y a plusieurs enquêtes parlementaires en cours. Et là, il y a la GRC qui est dans le dossier. OK. Ukraine, on est au jour 784 de l'invasion russe et il y a au moins 17 morts et 78 personnes qui ont été blessées aujourd'hui lors d'une triple frappe russe dans la ville de Tchernigiv. C'est dans le nord du pays. Et en réponse à cette attaque, le président Volodymyr Zelensky a critiqué, encore une fois, l'aide insuffisante de l'Occident. On sait que les Ukrainiens attendent du matériel, attendent de l'argent des alliés européens et surtout américain. On sait que ça branle dans le manche au Sénat américain. Il y a présentement là, beaucoup de tractations politiques pour aider les Ukrainiens, mais il y a plusieurs républicains qui sont opposés. Joseph Roche est envoyé spécial dans le Donbass. On le rejoint là-bas. Joseph, bonjour.
Bonjour Patrick, comment allez-vous?
Très bien, vous aussi j'espère. Vous êtes dans le Donbass, racontez aux gens qui nous écoutent d'abord ce que vous avez vu ces dernières heures.
Alors ce que j'ai vu ces derniers jours, c'est qu'il y a des attaques très massives actuellement sur la petite ville de Tchassiviar, qui est une ville qui est située à 30 km de Kramatorsk, qui est le nœud logistique de l'armée ukrainienne. Et l'armée russe a annoncé vouloir prendre la ville pour le 9 mai, qui est le jour de la célébration de la Grande Guerre patriotique. Et d'un point de vue stratégique, ça voudrait dire qu'après cette victoire, si les Russes arrivent à prendre cette ville, que Kramatorsk, le nœud logistique de l'armée ukrainienne dans le Donbass, serait à portée de l'artillerie russe, ce qui posera énormément de problèmes sur le court terme et long terme pour l'armée ukrainienne.
Rappelez aux gens qui nous écoutent, s'il vous plaît, Joseph, l'importance du Donbass là, dans ce bras de fer entre Russes et Ukrainiens.
Alors, l'importance du Donbass, c'est plus une zone qui est presque fixée, parce que depuis 2014, il y a des combats très intenses, et les Russes ont avancé dans le Donbass de manière assez massive au début de la guerre, mais peinent à avancer depuis maintenant un an et demi. Mais depuis la prise de la ville de Avdiivka en février 2024, les Russes arrivent à grignoter du terrain. Alors, j'ai discuté avec différents commandants d'unités pendant des reportages qui disaient que la situation était stabilisée, mais que malheureusement, en absence d'aide européenne, ils ne seraient pas en mesure de pouvoir, d'un côté, lancer une contre-offensive, mais surtout, sans aide américaine, seraient incapables de pouvoir tenir la ligne de front sans reculer pas à pas. Alors, ils disent qu'ils sont capables de colmater la brèche, mais que sans aide américaine, ils seront obligés de reculer pas à pas.
De quoi les soldats ukrainiens ont-ils besoin en termes de matériel, selon ce que vous avez pu constater?
Actuellement, le grand problème, c'est le manque d'obus qui se ressent énormément sur la ligne de front. Les Ukrainiens tirent un obus quand les Russes en tirent 10. Alors, les Ukrainiens ont tendance à mieux tirer que les Russes. Du coup, ils disent que pour être à parité, ils ont besoin de 4 obus contre 10 obus russes. Mais c'est ce qui se ressent le plus. Alors, ils attendent avec impatience les obus qui ont été promis par la coalition tchèque, qui a pour objet de récolter des obus dans des pays qui ne sont pas de l'OTAN et qui sont censés être envoyés dans les prochains mois. On parle de 800 000 obus, 500 000 obus de 155 mm et 300 000 obus de 122 mm. Donc, ils attendent ça avec impatience et aussi ils attendent avec impatience le demi-million d'obus qui sont censés arriver depuis l'Union européenne promis par la coalition des alliés européens.
Les soldats ukrainiens auxquels vous avez parlé, Joseph Roche, vous ont aussi dit attendre avec impatience les F-16. Ça a été une longue saga politique, là, la décision d'envoyer ou pas les fameux chasseurs F-16. À quel moment est-ce qu'on les attend?
Alors, on dit qu'ils devraient arriver d'ici l'été. Mais encore une fois, il y a toujours ces questions des délais qui est compliquée parce qu'il y a la formation des pilotes ukrainiens sur les F-16 qui prend du temps parce que beaucoup de pilotes sont obligés de combattre actuellement sur le front avec des Sukhoi, donc qui sont des avions soviétiques. Et du coup, le fait qu'ils doivent combattre et en même temps se former prolonge le délai de formation. Mais ils sont confiants qu'avec des F-16, ils seront capables de frapper un dans la profondeur, mais surtout être capables de combattre les frappes russes, notamment avec ce qu'on appelle les FAB, qui sont des bombes russes low cost, qui sont lâchées sur les villes ukrainiennes du Donbass actuellement. Et s'ils ont des F-16, ils seront capables de faire ce qu'on appelle du RR, donc tirer de l'air sur l'air, et leur permettrait de pouvoir empêcher les bombardements de bombes FAB sur les villes du Donbass.
Les soldats que vous avez interviewés, Joseph, sur la ligne de front dans le Donbass, vous ont aussi parlé de ce problème qui est connu, mais en des termes très concrets, celui du manque d'effectifs dans l'armée ukrainienne.
Alors, il y a un énorme problème d'effectifs dans l'armée ukrainienne, mais le grand problème, ce n'est pas tant la masse, mais c'est plus l'entraînement des soldats. Donc ça, c'est quelque chose qui est revenu énormément dans mes entretiens. C'est vraiment le manque de formation des soldats ukrainiens. Alors, la semaine dernière, le Parlement ukrainien a voté la loi sur la mobilisation, qui a fait beaucoup de débats en Ukraine parce qu'il y a eu l'annulation en dernière minute de la provision qui permettait la démobilisation des soldats qui avaient servi plus de 36 mois. Et en fait, ça s'explique par le besoin crucial actuellement d'hommes. Et avec cette nouvelle mobilisation, l'Ukraine espère pouvoir soulever 200 à 300 000 hommes. qui pourrait permettre des rotations pour pouvoir former les soldats qui sont au front et aussi permettre du repos pour les soldats qui se battent depuis le début. Mais le grand problème, c'est qu'en l'absence de l'aide américaine qui est toujours actuellement bloquée au Congrès, le speaker de la House, Mike Johnson, a dit qu'il devrait voter ce 20 avril. Mais en absence de ce paquet d'aide, les Ukrainiens ne seront pas capables de sauver plus d'hommes, parce que prendre 300 000 hommes dans la société ukrainienne, c'est prendre 300 000 contribuables et les payer. Du coup, il y a besoin de cette masse monétaire pour pouvoir payer les soldats ukrainiens.
Racontez-nous l'état d'esprit des soldats. Je lisais votre texte dans la Tribune de Genève, là, qui a été publié hier. Les soldats auxquels vous avez parlé semblent optimistes quant à l'issue de la guerre. On ne doute pas de la victoire de l'Ukraine. Est-ce que vous les croyez?
Moi, je les crois vraiment, parce qu'au bout du compte, même si les Russes arrivaient à enfoncer les lignes ukrainiennes, ça se terminerait en une guerre de guérilla avec, bien sûr, énormément de morts du côté ukrainien, énormément de morts du côté russe. Parce qu'en fait, les Ukrainiens sont conscients que c'est une guerre existentielle et qu'ils ne peuvent pas reculer. Et ils sont conscients, j'en discutais avec un membre du Parlement aujourd'hui même, qui disait que si on recule, ce seront nos enfants qui seront envoyés par les Russes contre les armées européennes, parce que c'est ce qui se passe actuellement, c'est que les Ukrainiens qui sont sous occupation russe sont mobilisés de force par les forces russes pour aller se battre et sont envoyés en première ligne pour combattre les forces ukrainiennes, alors qu'eux-mêmes sont ukrainiens. Et du coup, ils savent que c'est une guerre existentielle et qu'ils ne peuvent pas reculer. Et en fait, il y a aussi cette conscience de dire que l'armée russe souffre et la Russie, en tant qu'empire, est en train de craquer sur elle-même. Et eux, ils espèrent non pas une victoire qui leur permettrait de enfoncer les lignes russes, mais plus l'Empire russe qui s'effondrerait sur lui-même de par ses propres échecs politiques. D'où le fait qu'il continue à faire des incursions sur le territoire russe, comme ce fut le cas en février avec l'incursion à Belgorod. Il continue à mettre la pression sur les raffineries de pétrole en Russie. Il continue à mettre la pression sur la flotte russe en mer Noire. Du coup, c'est plus un changement de stratégie qu'ils ont actuellement, de dire on tient la ligne, mais à côté de ça, on met la pression sur là où les Russes sont faibles. Ils sont forts à l'assaut, du coup, il faut qu'on tienne les lignes, mais ils sont faibles sur d'autres aspects, c'est là où il faut qu'on les tape.
Joseph, merci beaucoup pour cette correspondance. Faites attention à vous, on aura l'occasion de se reparler rapidement.
Merci beaucoup, Patrick. Passez une bonne journée.
Au revoir. C'était Joseph Roche, il est correspondant notamment pour le journal suisse La Tribune de Genève.
Patrick Lagacé, en accéléré.
Art et spectacle. Voici Catherine Beauchamp.
Ogre, ogre, tu ne l'auras pas. Ogre, ogre, c'est bien fait pour toi. Nanani nanère, tu ne l'auras guère.
Chanson d'ogre pour parler du livre Tuer l'ogre de Jordan Dupuis, Catherine. Et Jordan est en studio avec nous.
Il est lui-même étonné d'entendre la chanson.
Cette chanson.
C'est le génie de notre metteur en onde, Maxime Pépaquet, qui a fait l'effort de trouver une chanson qui pouvait correspondre à ton livre.
Et ça, je ne l'ai pas vu venir.
Pendant un instant, juste avant d'entrer en onde, Jordan pensait qu'il y avait déjà une chanson en l'honneur de son livre.
Jordan, ça s'appelle Tuer l'ogre. Je te connais, je dois le dire, là. On se connaît depuis longtemps.
Ouais.
Je connaissais ton parcours. On avait souvent eu des discussions autour de tes problèmes alimentaires, tes troubles alimentaires, mais je te trouve hyper courageux de t'être livré à ce point-là dans ce livre-là, parce que ça part un trouble alimentaire qui débute quand t'es vraiment petit.
Absolument, absolument. Je sais pas dans quoi je me suis embarqué. Oui, exactement. Donc, rapidement, dans ma jeunesse, j'ai commencé à souffrir d'hyperphagie boulimique.
Quoi l'hyperphagie?
L'hyperphagie, c'est grossièrement, c'est le contraire de l'anorexie. Donc, c'est manger à outrance, un peu comme un alcoolique qui boit jusqu'à pouvoir boire. Et moi, c'était la même chose avec la nourriture, jusqu'à me rendre à 345 livres mi-vingtaine, qui a été le fond du baril, faut le dire. Malheureux, pas juste gros, mais gros de peine à l'intérieur aussi.
Tu décris ta relation avec la bouffe presque comme une relation sexuelle. Hein? Tu parles de ta première fois où tu as mangé de la pâte à biscuits Pillsbury, de la pâte qui n'est pas cuite. Puis là, tu racontes à quel point tu le faisais en cachette.
Ouais.
Et tu dis, je ne savais plus ce que je faisais. C'est presque comme une relation sexuelle, comme un premier orgasme. C'est encore clair pour toi, ce souvenir-là?
Oui, et c'est drôle que tu parles de ce chapitre-là parce que c'est le premier qui a été écrit de tout le livre. Donc, c'est un dans mes souvenirs les plus clairs de ma relation avec la nourriture où j'attendais que ma mère arrive de l'épicerie, je fouillais dans ce qu'elle avait acheté. Je voyais où elle plaçait dans l'armoire ces aliments interdits-là à l'époque, hein, parce que j'ose espérer que maintenant, il n'y a plus d'aliments interdits, ce qu'il faut. Mais on donne encore de la valeur à des aliments comme ça. Donc, c'était jour de fête au village quand il y avait des biscuits Pillsbury, quand il y avait des chips, quand il y avait des vachons, quand il y avait tout
et
ce qu'on n'est pas supposé.
Et cachette?
Exactement. Donc, je mangeais en cachette. Puis, je me souviens d'avoir eu mon premier amour, c'était la nourriture, c'était ça, c'était mon réconfort. Moi, je viens d'une époque où on pouvait pas être gay, certainement pas gros en même temps. Donc, j'ai mangé ce mal-être-là, cette honte-là. C'est mon émotion, moi, qui m'a habité toute ma jeunesse et toute mon adolescence.
Question, Jordan Dupuis, tu as fait un lien avec l'alcool tantôt. Oui. Tu mangeais trop comme des gens boivent trop. Si on a un problème d'alcool, on peut cesser de boire de l'alcool. C'est très difficile, mais on va vivre. On peut pas vivre sans nourriture.
Absolument, Patrick. Et c'est ça la grande bataille des troubles alimentaires, c'est que ça fait partie de ta vie. Donc, tous les jours, même encore aujourd'hui, je suis en repositionnement. Donc, pour moi, ça a été très important d'installer une routine alimentaire matinale dans ma vie parce que sinon, je me considère pas guéri. Je me considère en rémission parce que le trouble alimentaire, comme l'alcoolisme, la toxicomanie, etc., ça part d'une souffrance. Puis moi, je suis pas à l'abri de la souffrance. Donc, je sais pas ce qui pourrait arriver pour me faire rechuter. Mais chaque jour, faut manger. Chaque jour, faut se questionner sur ce qu'on met dans notre bouche. 12 fois par année, il y a des jours fériés, des jours de fête. Et là, on vient de finir Pâques, là, c'était pas évident.
Jordan, est-ce que c'est juste de dire que avant tu pensais tout le temps à la nourriture. Ouais. Aujourd'hui, tu penses tout le temps à la nourriture, mais d'une façon peut-être différente.
Oui, je te dirais que je pense encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à la nourriture, mais maintenant, c'est plus ancré dans une honte ou dans un sentiment d'interdit. Chez moi, maintenant, il y a des chocolats, il y a des chips, il y a n'importe quoi.
Okay, tu peux vivre avec ça dans la maison.
Je peux vivre avec ça dans la maison et je me permets de le vivre parce que je pense sincèrement que l'interdit amène la compulsion. Donc, je me prive pas, mais je dois quand même... Tu sais, je suis tout courant encore... 100% ce qu'il y a dans mon armoire puis ce qu'il y a dans mon frigidaire. Je peux te dire précisément ce qu'il y a en ce moment dedans.
Jordan, hier, on a reçu une réalisatrice qui présentait un documentaire sur l'Ozempic, la piqûre de la minceur. Puis elle expliquait comment sa mère, je pense que sans vouloir lui inculquer quelque chose autour du poids, c'est-à-dire beaucoup de diètes, de régimes, du commentaire et tout ça. Quand on lit ton livre, tu fais une lettre au début, tu parles à ta mère en disant « Ceci n'est pas une guerre contre toi ». Mais je pense qu'il y a quelque chose que les parents devraient apprendre envers leurs enfants sur comment ils se comportent par rapport au poids. Est-ce que tu es d'accord avec moi?
Je suis vraiment d'accord avec toi. Puis moi, ce chapitre-là a permis de me plonger dans l'écriture. Je me suis permis, en parlant à ma mère, en lui disant « Maman, ce n'est pas un désaveu envers toi. Tu es tout comme moi, victime d'une société qui était grossophobe, qui était homophobe. Ce que ce livre-là veut dire aux parents, c'est aimez-les vos enfants.
Peu importe.
Peu importe, parce que moi, c'est ce qui m'a sauvé, c'est l'amour, c'est la bienveillance, puis c'est des parents extraordinaires, même s'ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Et puis les outils de l'époque, c'est pas ceux qu'on a aujourd'hui. C'est aimez vos enfants, mon Dieu, aimez-les.
Jordan, les gens qui ont des compulsions, des dépendances, ça vient souvent de failles, de blessures. Mm-hmm. Toi, tu fais un lien avec ton trouble alimentaire et l'homophobie.
Oui.
Élabore un peu là-dessus.
Ben, moi, j'ai d'une famille de 3 garçons. Enfin, on est 3. On a tous 2 ans de différence. Des gars 6 blancs, hétérosexuels, qui n'ont jamais eu de problème de poids, toujours été très sportifs. Je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai 41 ans. Je viens d'une époque où on construisait les normes de genre, les stéréotypes reliés aussi à l'orientation sexuelle. On pouvait pas être homosexuel à cette époque-là. Donc, rapidement, cette différence-là, j'ai... Tu sais, tous les premiers French, les premiers je t'aime, les premiers fantasmes, tout ça, je pouvais pas le vivre dans l'espace public. Je pouvais pas être à l'école puis dire « Hey, ce petit gars-là, je le trouve cute. » Non, je pouvais pas, tu sais. Fait que je le mangeais.
Comment ta vie aurait été différente si t'étais né 25 ans plus tard?
Je pense que c'est une des meilleures questions qu'on m'a posées. Je le sais pas. Je le sais pas, mais je pense que ça serait... parce qu'en même temps, mon histoire s'est construite dans une époque aussi. Si c'est une époque qui est différente maintenant, reste somme toute qu'on sait ce que c'est les troubles alimentaires, on sait ce que c'est l'image corporelle. Mais reste que c'est quand même à son apogée en ce moment. Là. Ça explose de partout, etc. Je pense que ça serait encore plus difficile, non seulement parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a la pression
Mais tu sais, il y a un mouvement qui entoure ce qu'on appelle la positivité.
Body positive,
ben, en français. Ouais. Mais il y a un mouvement, tu sais, la diversité corporelle, de rendre le corps qui n'est pas nécessairement dans les standards de beauté beau. Ouais. Donc, tu sais, ça change beaucoup pour une époque. Puis on s'entend que l'homosexualité, c'est accepté maintenant. Ouais. Fait que c'est sûr que ce serait différent. Là.
Ça serait différent, mais en même temps, les troubles alimentaires, les troubles de l'image corporelle n'ont jamais été aussi présents, aussi élevés. L'arrivée d'Instagram est vraiment venue toute chambouler.
Ça, c'est rough pour la vision de soi, si on
exactement.
Grandit, il me semble.
Le Snapchat, l'Instagram, la Snapchat dysmorphia, la dysmorphie, justement, des réseaux sociaux. Autant que tu trouves des modèles positifs sur les réseaux sociaux. Puis je parle de réseaux sociaux parce que c'est principalement ancré là-dedans, la naissance des troubles alimentaires chez les adolescents. Mais autant tu trouves l'inverse. Et c'est pour ça que moi, quand je donne des conférences ou quand je parle à des jeunes, je leur dis, vous avez le contrôle de l'environnement que vous consommez. Fait que c'est difficile.
Est-ce que les chirurgies, parce que tu as eu plusieurs liposuctions, tu parles de liposuction pour les seins, parce que tu voulais pas avoir ce qu'ils appellent des seins d'hommes. Ouais. Tu as eu une chirurgie bariatrique aussi plus tard. Ouais. Est-ce que ça aide ou c'est pas nécessaire avec le recul?
Je vois la chirurgie bariatrique comme un outil dans un ensemble de facteurs. Moi, quand j'ai ma chirurgie bariatrique, je ne perdais pas de poids. Au contraire, je me suis rendu davantage malade parce que j'avais pas traité ce que j'avais dans la tête. Donc, oui, c'est la chirurgie bariatrique, ça fonctionne, mais quand c'est pris dans un ensemble d'outils, si on se fie juste là-dessus puis qu'on ne traite pas ce qu'on a dans le cœur et dans la tête, ça ne fonctionnera pas.
Jordan, merci de ta visite. C'est fascinant de t'écouter parler. Bonne chance pour la suite.
Merci beaucoup.
Ton livre s'intitule « Tu es l'ogre ».
Et c'est très bon.
Merci.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici,
très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'était jour de budget hier et on est encore en train de le décortiquer. Notre ami McSween était là à Ottawa hier, va en parler encore une fois dans sa chronique. On commence à comprendre mieux, disons, l'interprétation de ce qui a été lancé hier par la ministre des Finances, Chrystia Freeland. On va parler de tout ça avec le député bloquiste de Mirabel et économiste Jean-Denis Garon. Monsieur Garon, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
Je pense pouvoir me dire, sans me tromper, que vous n'avez pas aimé le budget.
Ben, on a déjà annoncé qu'on votait contre le budget. C'est pas une surprise. De toute façon, c'était une espèce de striptease budgétaire, là, depuis 3 semaines. Ils l'ont effeuillé à grandeur. On n'avait plus beaucoup de surprises dedans. Et c'est un budget qui est sous le signe des intrusions dans les compétences du Québec, intrusions en santé, intrusions en logement. Ils vont même, M. Lagacé, jusqu'à dire à Hydro-Québec comment tarifer l'électricité. Intrusion dans la taxation foncière. Alors, vous comprendrez que dans l'optique d'offrir des meilleurs services aux Québécois de la façon la plus efficace possible, au coût le plus bas possible, on peut pas demander un bloquiste de voter pour ça. Nous, on n'est pas l'NPD, on fait pas de faux suspense, on va voter contre.
OK, alors on va décortiquer tout ça, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que Mme Freeland avait à dire à Hydro? J'ai raté ça.
Ben, c'est parce que l'année dernière, le gouvernement avait établi une nouvelle subvention pour l'énergie propre. Typiquement, le Québec est désavantagé par ça parce que les sociétés d'État qui fournissent l'énergie, comme Hydro-Québec, qui on s'entend un fleuron au Québec, qui est gigantesque, ben, typiquement, dans ces subventions-là, les sociétés d'État des provinces étaient exclues. L'an dernier, on nous a dit, elles seront incluses, elles pourront avoir les subventions, mais cette année, on met les conditions. Et ce qu'on dit, par exemple, c'est que si Hydro-Québec a une subvention pour, par exemple, des projets d'éoliennes d'énergie propre, on s'entend que 100% de notre énergie est propre au Québec, alors il y aura une condition à l'effet que le Québec devra absolument faire en sorte que la subvention se transpose en baisse de prix sur la facture des Québécois. Mais la situation du Québec, un, c'est pas des affaires d'Ottawa, mais deux, la situation du Québec est particulière parce qu'on paie les prix les plus bas en Amérique du Nord pour l'électricité, parmi les prix les plus bas au monde. On a un bloc patrimonial qui est absolument unique. Alors, c'est encore une façon de enfin, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais c'est clairement dysfonctionnel. Je peux même pas m'imaginer, moi, tu sais, qui connais assez bien le fonctionnement du marché énergétique au Québec, comment ça pourrait être applicable.
Expliquez-moi. Alors,
c'est une façon d'exclure le Québec sans l'exclure.
Expliquez-moi comment Ottawa est en train de dicter la taxation foncière dans les villes.
Ben, c'est par exemple, le gouvernement a décidé qu'il se lançait dans la construction de logements pour étudiants. Et pour ce faire, ce qu'ils font, entre autres choses, là, c'est qu'ils établissent un périmètre autour des établissements scolaires pour lesquels il va devoir y avoir des changements de zonage pour que les villes puissent se conformer aux politiques d'Ottawa pour avoir le financement. D'abord, ça, c'est une intrusion qui est directe. La deuxième chose, c'est la taxation sur les terrains vacants. L'année dernière, on avait une nouvelle taxe sur les immeubles qui sont inoccupés par les municipalités, puis c'était la première fois dans toute l'histoire de la Confédération canadienne que le gouvernement fédéral allait s'ingérer dans la taxation foncière. Et cette taxe-là, elle fonctionne pas. Ils ont de la difficulté à l'appliquer parce qu'ils n'ont pas l'infrastructure pour le faire. Les municipalités ont ça, le cadastre, c'est québécois. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait double down là-dessus, vous m'excuserez l'anglicisme, et on continue sur les terrains inoccupés. Alors, c'est une ingérence directement dans la taxation foncière. On peut être pour ou contre la mesure, là. Je dis pas nécessairement que c'est une mauvaise mesure. Mais ce qu'on dit, c'est que c'est pas à Ottawa à faire ça.
J'allais vous demander, si on n'est pas là vraiment fasciné par les questions d'intrusion des compétences du fédéral dans les autres juridictions provinciales, municipales. Ben oui, on est une personne normale, OK? Mais c'est pas en soi mauvais ce qu'Ottawa essaye d'implanter comme changement, par exemple, sur la taxation foncière. Expliquez à quelqu'un qui n'est pas fasciné là par les questions d'intrusion fédérale dans les champs de compétences des provinces et des villes. Pourquoi est-ce qu'on devrait peut-être se battre dans les autobus pour ça?
Bien, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est, tout le monde trouve que c'est important la santé, l'éducation, le logement étudiant. Puis, ce sont des questions qui sont prioritaires pour les Québécois. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte que les Québécois aient les services le plus rapidement possible, de façon la plus efficace possible, avec le moins de conditions possible, avec le moins de délais administratifs possible. Et pour ça, il y a une solution, là. C'est de faire en sorte que le gouvernement, qui est le plus proche du terrain, le plus proche des gens, qui a l'expertise, qui gère des hôpitaux, dans le cas du Québec, soit dit en passant, on est la seule province sur les 10 qui a des programmes permanents de construction de logements sociaux depuis plus de 30 ans. On est la seule. Alors, c'est de faire en sorte que ceux qui connaissent la façon de faire puissent le faire le plus rapidement possible. Puis, si vous me permettez, je vais vous donner un exemple. Un exemple d'intrusion comme ça dans un champ important que nuit au Québec. Il y a quelques années, le fédéral a mis en place ce qu'on appelait la stratégie nationale du logement. Alors, il y avait de l'argent pour le logement. Alors, pour les autres provinces, ça a bien été parce qu'ils n'ont pas de programme permanent de construction de logements sociaux. Pour le Québec, les conditions se sont multipliées. Et ça a fait en sorte qu'il fallait se conformer aux conditions et de Québec et d'Ottawa. Et le Québec a attendu presque 4 ans de plus que les autres provinces pour avoir l'argent. Et on s'est ramassé avec des projets qui attendent depuis à peu près, qui ont attendu, dans certains cas, 8 ans avant de pouvoir passer à la phase de construction. Puis ça, ben, la conséquence de ça direct, ben, c'est qu'on a des gens qui sont pas servis par le marché, qui ont besoin de HLM, puis qui présentement dorment dans leur auto. Puis ça, c'est la réalité des Québécois.
Je veux vous parler des hypothèques islamiques. C'est 400 pages, le budget. Il y a un petit passage sur les hypothèques islamiques là, qui permettent aux Canadiens de religion musulmane et aux membres d'autres communautés issus de la diversité, je cite, de participer davantage au marché de l'habitation. On dit que c'est un marché en plein essor. D'abord, c'est quoi l'hypothèque islamique?
Mais d'abord, là, on va juste s'entendre. Vous avez dit « issu de la diversité ». On parlerait de règles hypothécaires qui sont spécifiques pour une confession particulière. Dans la religion musulmane, si on se penche sur ces préceptes-là de façon très littérale, les musulmans, en principe, n'auraient pas le droit de payer d'intérêt. Alors, dans certains pays, il y a des marchés qui se sont développés avec toutes sortes de façons de faire qui sont différentes, où une tierce personne va acheter la maison, va faire des paiements et non des paiements d'intérêt, etc., etc. C'est une façon de faire qui est complètement différente. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai été choqué par ça pour la raison suivante. Moi, j'en ai une communauté musulmane, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, chez nous, des gens bien intégrés, qui parlent français, intégrés en emploi, qui ont acheté des maisons. Jamais une seule fois, on m'a approché pour me dire que c'était un enjeu puis que c'était important. C'est jamais arrivé. Mais par ailleurs, au Québec, tu sais, au Québec, on a, je pense que c'est quand même une norme qui est établie qu'on ne modifie pas la loi pour une confession religieuse particulière. On a refusé l'application de certains préceptes de la charia en droit familial, par exemple. On se bat, on peut être pour ou contre, mais on se bat jusqu'en Cour suprême pour ça s'en vient pour la loi 21. Et là, on a un gouvernement fédéral qui nous dit qu'il est laïque et qu'en même temps, ils nous disent on va changer les règles bancaires, hypothécaires, de gestion du risque, la SCHL sur les cash downs, sur le calcul du gain en capital, sur les transferts de propriété pour une confession particulière. Et moi, je trouve ça choquant qu'à un moment où on vit autant de crises présentement, autant de crises sociales dans le logement, en santé, en financement de la recherche universitaire, qu'on passe du temps à parler de ça alors que c'est absolument pas une demande de qui que ce soit dans nos communautés.
C'est ça. Surtout que dans cette communauté-là, ceux qui choisissent d'observer ces préceptes-là, semble-t-il, ils sont débrouillés pour contourner les obligations d'intérêt.
Bon. Ça, c'est un enjeu. Moi, je vais vous dire ce que vous savez déjà. La grande, grande, grande majorité, sinon la quasi-totalité des musulmans qui veulent s'acheter une maison, prennent leur argent, font un down payment, ils vont voir leur banque, ils achètent une maison. Moi, j'ai pas les chiffres. Je sais pas c'est quoi l'ampleur de ce marché-là, mais s'il existe un marché alternatif pour ça, parce que les grandes banques offrent pas ces produits-là, ils sont pas conformes aux lois canadiennes. S'il existe un marché alternatif avec des institutions qu'on ne connaît pas, on sait pas qui finance ça, dans quel pays, dans quel endroit, et que c'est un enjeu, il faut que les institutions de réglementation bancaire canadienne fassent en sorte d'interdire et en tout cas à tout le moins d'encadrer et de documenter cette pratique-là et non de s'y conformer. Parce que la question qui va être soulevée par la suite, c'est ça va être quoi la suite? On va modifier les lois pour quelle autre confession, quel autre groupe particulier? Et moi, que ce soit islamique ou autre chose, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'on a un ensemble de lois, on a des lois bancaires, tout le monde doit s'y conformer. Et je le répète, je ne comprends pas l'importance de l'enjeu et je me permets de penser librement que si c'est pas dans les sensibilités multiculturalistes des libéraux, je pense qu'il y a un aspect clientéliste là-dedans. Les libéraux ont baissé dans les sondages, ils voient qu'ils sont en train de perdre dans certaines de ces communautés-là, notamment en banlieue de Toronto, et qu'il y a là-dedans du clientélisme politique. Moi, je pense pas qu'on devrait instrumentaliser le système bancaire à des fins électorales.
En terminant, M. Garon, la dernière fois qu'on s'est parlé, là, vous m'aviez raconté, disons, une prise de bec que vous aviez eue avec un employé à l'aéroport Trudeau qui voulait pas vous parler en français puis qui vous avait un peu brassé parce que vous exigiez de faire parler français. Je voulais savoir, avez-vous vu cette nouvelle d'Hélène Buzetti, la journaliste qui est basée à Ottawa, qui dit que Gabriel Attal, le premier ministre français, a rencontré la gouverneure générale, Mme Simon, et ça s'est passé en anglais parce qu'elle parle toujours pas français?
Je ne sais pas quoi vous répondre, à part que je ne suis pas surpris. Tu sais, vous avez parlé tantôt, on parlait des ingérences, c'est pas dans le quotidien des gens. Moi, je vous réponds, oui, c'est dans le quotidien des gens. C'est juste que c'est instrumentalisé, on s'en rend pas compte. Le français, c'est notre langue nationale, c'est la langue qu'on parle, c'est celle qui nous permet de vivre collectivement ensemble et est bafouée à chaque jour. Ici, dans la capitale fédérale, nous, on le vit à chaque instant. Dès que les micros sont fermés, on nous dit « speak English ». Je suis absolument pas surpris de ça. Et nous, on a passablement critiqué la nomination d'une gouverneure générale qui ne parle pas français. C'est une gouverneure générale autochtone, c'est une bonne chose, mais le fait de ne pas parler l'une des deux langues fondatrices de la Fédération canadienne, c'est en soi un déni aux droits des francophones, et c'est très, très malheureux que ce soit la carte de visite que le gouvernement fédéral ait laissée au premier ministre français.
Merci beaucoup, M. Garon. Bonne journée.
Plaisir, pareillement.
C'était le député bloquiste de Mirabel et économiste Jean-Denis Garon.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.